Hello, welcome back. Of course, MG que je suis, on va parler de Enneagram today. It's my new thing, you know. J'aime bien ça. Là, j'avais dit au dernier épisode que... j'ai trop de choses que je veux dire. Oh my God. Le dernier épisode, j'avais dit, je pense que je vais te partager, en fait, comment utiliser chaque outil. Fait que, quoi faire avec l'astro, quoi aller chercher. Comment utiliser le Human Design, puis à quoi ça sert, puis comment utiliser le Enneagram. Parce que je trouve que moi, je les utilise de façon différente. C'est pour ça que je tripe sur le Enneagram, parce que ça vient comme compléter ce que je trouvais qui manquait. Ça vient complexe, tu vas me dire, mais tu vas voir, ça fait tout son sens. Mais ça va être la semaine prochaine, parce que là, ce que je voulais faire, c'est que tu puisses découvrir un peu plus c'est quoi ton Enneagram sans toutefois faire de test. OK? Savoir un peu où tu t'en vas, puis peut-être même comprendre ton entourage. Ce que j'ai compris avec le Enneagram, là, il y a une chose, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que peu importe comment nos parents nous ont élevés, peu importe, parce que, tu sais, mettons, moi j'ai un frère, OK? Moi puis mon frère, on est élevés quand même de la même façon. Mais on peut expliquer ça avec le Human Design, on peut expliquer ça avec l'astro, mais je le vois particulièrement plus avec le Enneagram. Moi, j'ai tout le temps dit que, en fait, que comme, mettons, je comprends mes patterns, OK? Parce que, mettons, mon père, je crois qu'il est un en Enneagram, OK? Ça, c'est quelqu'un qui est très... qui va faire les choses de la bonne façon, qui va être une bonne personne, qui va faire les choses pour être honorable. Tu sais, comme... Puis, moi, avec mes lunettes, j'étais comme, voyons, tu sais, have some fun, ça n'a pas de bon sens, tout le temps se sentir obligé de faire des affaires. Puis, mais moi, avec le temps, quand j'ai découvert l'anagramme, j'ai compris que j'étais 7, qui est genre exactement ça. Tu sais, pleasure before duty, là, tu sais. Fait que de comprendre ça, je suis comme... Mais dans le fond, mon père, il n'a rien fait de pas correct. Moi, j'ai rien fait de pas correct. On est juste différents. On opère de façon différente. Puis on dirait que de comprendre un Enneagram, ça m'a fait prendre conscience comme quoi on n'est pas tant brisé. Ça se dit-tu, ça? Tu sais qu'on est vraiment juste différents. Puis ça, je l'avais compris avec le Human Design, mais encore plus avec le Enneagram. Fait que bref. Ce que je te propose de faire, je vais énumérer quelques traits de personnalité selon les 9 Enneagrams, OK? Peut-être que tu le sais déjà, c'est quoi ton Enneagram? Good for you. Ça va peut-être te faire un petit rappel, un petit refresh, ou peut-être même te donner une idée de ton entourage, qu'est-ce qui pourrait être. Et après ça, je vais te donner c'est comme le core motivation, la core fear de chaque. Parce que moi, si je fais le test à chaque fois, là, je suis 7, mais je suis très, très proche d'être un 8 puis un 3. Mais qu'est-ce qui fait que ça tranche pour être un 7 ou qu'est-ce que toi, ça tranche pour être un 2 ou un 6 ou whatever? Ça va être ce qui te motive et ce qui te fait peur. OK? Deep down. OK? Puis ça c'est une chose. Puis la chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde, par exemple, les traits du Enneagram numéro 7 ou numéro 2, puis après ça, on regarde les core motivation puis core fear. Ça ne veut pas dire que toi, t'opères all day long comme ça, puis t'es comme moi. Mettons, la peur du numéro 7, c'est de trouver ça plate. OK? Fait que moi, je me mets plein de choses dans mon horaire, j'évite les situations qui pourraient peut-être être boring. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas fait un cheminement. Ça ne veut pas dire que j'ai commencé à... que j'ai pas commencé à adresser ça, puis que ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire chaque personne va être à un niveau différent. C'est juste que c'est quelque chose qui va rester deep down, OK? Peut-être que tu es consciente de ta peur, puis que you work through it, that's perfect, mais ça reste quand même une peur qui est là, OK? Puis c'est ça, dans le fond, qui va nous faire avancer ou reculer dans la vie. Puis, c'est pour ça que le Enneagram, je trouve ça vraiment cool parce que ça nous montre nos patterns. Fait que quand il y a peut-être des choses que tu identifies moins, puis c'est correct, c'est comme je dis, on n'est pas toutes à la même place. Puis on a pas toutes les mêmes prises de conscience. Fait que peut-être qu'il y a des choses que tu es comme, ben moi, j'étais comme ça avant, mais plus là. Puis good for you, tu sais, c'est parfait. OK? Alors, je commence. Le numéro 1, en fait, il y a 9 Enneagrams, OK? Le numéro 1, c'est un type de personne qui est très sérieux et straightforward, OK? C'est comme très... what you see is what you get. Là. Il n'y a pas de fluff, OK? Il est très côté pratico-pratique, travaille très, très, très fort, donc c'est un très bon employé. Il y a des standards pour lui-même très élevés et souvent des standards pour les autres aussi qui sont très élevés. Il y a une certaine rigidité par rapport à un plan d'action ou des décisions. Tu sais, il second-guessera pas, il ne remettra pas en cause. C'est comme, j'ai pris ma décision, c'est comme ça. ouais, c'est ça. Fait que ça va être le 1, c'est une personne qui va être vraiment... c'est quoi « duty » en français? You know, « duty ». Fait que ça va être quelqu'un qui va dire beaucoup de « je dois ». OK? « Je dois faire ça ». C'est ça qu'une bonne personne fait. OK? Ça va être vraiment ce qui va pousser la personne à prendre action. Le numéro 2, c'est quelqu'un qui est très... qui a un très beau charme. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas charmants, mais cette personne-là, elle a un charme. C'est souvent la personne qui va être volontaire pour aider, excellente personne dans les travaux, les trucs d'équipe. C'est des personnes qui vont être très, très caring, nurturing, gentle. C'est très l'énergie d'une maman. Souvent, ils vont être très patientes, très généreuses. Souvent, ils vont vouloir donner beaucoup, beaucoup. OK? Le numéro 3, c'est des personnes qui vont être très alertes à qu'est-ce qu'il faut faire dans notre société pour réussir. OK? Ils vont souvent avoir des très beaux accomplissements. Ils vont être très... très occupés et on the go, tu sais, comme tout le temps busy bee, comme on dit. Ils vont être très charismatiques, puis souvent, quand on va les rencontrer, ils n'auront pas de difficulté à faire une bonne première impression, OK? Les trois, c'est vraiment des go-getters, get shit done, OK? C'est vraiment ce type-là. Le numéro 4, c'est des personnes qui vont avoir un côté très artistique, qui vont avoir un peu de mélancolie dans leur expression, toujours une petite tristesse là, à quelque part. Ça va être important pour ces personnes-là, ils vont toujours vouloir se démarquer des autres, être différents. Des fois, ils vont sentir, ils vont être très passionnés par le self-expression, parce que justement, ils veulent se démarquer des autres. Mais des personnes très, très émotionnelles, proches de leurs émotions, mais ils vont vivre de grandes émotions aussi. Le numéro 5, c'est des personnes qui vont être très, on va dire qu'ils sont très plus intellectuels, introvertis. Ils vont souvent se perdre dans leurs pensées. Ça va être des personnes que ça va être un peu plus difficile d'aller... voir qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, mettons, ou dans leur tête. Ça va être difficile de percer à travers ça, cette grosse coquille-là. C'est des personnes qui vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances sur des sujets divers selon leurs intérêts. Ils vont faire beaucoup de recherches sur les sujets qu'ils aiment. Ils vont donner des réponses qui sont très, très... complète, si je peux dire. C'est le genre aller loin dans leurs réponses. C'est des personnes qui vont comme pas se retenir, mais avant de parler, ça va faire longtemps qu'ils vont penser à leurs réponses. C'est pas des gens qui vont être impulsifs et qui vont parler intuitivement. C'est des personnes qui vont ruminer beaucoup avant de s'exprimer. Des personnes qui vont être très, très indépendantes. Le numéro 6, c'est des personnes qui vont vraiment s'identifier à leur social group, des personnes qui vont avoir un peu plus l'esprit, pas communautaire, mais très rassembleur ou faire partie. C'est plus faire partie d'un groupe. C'est des personnes qui vont être très organisées, puis qui vont être très appréciées de leur pair, de leur groupe. C'est des personnes qui vont être des bons managers, si on peut dire. Puis c'est pour ça que ça va être des bonnes personnes à avoir dans son équipe, par exemple. C'est souvent ces personnes-là qui vont avoir un groupe de bonnes amies. Puis que leurs amis, c'est genre le best thing in the whole wide world. C'est des personnes qui vont très bien communiquer aussi. Puis souvent des personnes qui vont être orientées vers les détails. Le numéro 7, ça c'est le mien, c'est des personnes qui sont tout le temps en action, tout le temps pas dans plein de projets, mais plus en train de faire plein de choses. Okay? Et genre, typiquement, faire l'école à la maison, avoir un business, voyager. Ça, c'est très typique d'un 7. Ils vont souvent avoir plein d'intérêts en même temps. Je trouve que le 7, ça ressemble beaucoup à l'énergie du Manifesting Generator, by the way. Il va avoir une énergie un peu d'enfant, le cœur d'enfant. Tu sais, je dirais l'innocence de l'enfant, que l'enfant voit tout de beau, bien, ça va être un peu ça, le 7. Ils vont être curieux, ils vont avoir souvent plein de projets créatifs au niveau professionnel. Ils vont être très, très, très optimistes, genre, ils vont toujours voir le bright side, le côté positif de la chose. Puis sont très aimés par les gens. Fait que c'est souvent eux qui vont faire une très bonne première impression. Le numéro 8, c'est des personnes très indépendantes et self-sufficient. Comment on dit ça en français? Qui dépendent pas de personne. T'sais, qui veulent être capables d'avoir leur liberté, pas de dépendre de personne. C'est des personnes que quand on regarde, ils ont l'air d'avoir confiance en eux. Sont très. Comment qu'on peut dire ça? Ils ont de l'air fort. T'sais, pas fort physique, mais t'sais, il y a comme une force qu'on voit quand on les regarde. Okay? De la façon qu'ils se tiennent, de la façon qu'ils parlent, sont comme très ancrés dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils sont. Sont très déterminés. Ils ont quand même beaucoup d'énergie puis sont souvent très, très occupés eux aussi. C'est des passionnés et très puissants. C'est des personnes qui vont être entêtées. Ça va être difficile de les faire changer d'idée. Puis, ils aiment beaucoup le contrôle de leur environnement. Le dernier, numéro 9, c'est des personnes qui vont être très calmes, très zen. C'est des personnes qui vont être souvent un médiateur, qui vont être capables comme aider les gens à défaire un conflit ou arriver à une résolution. Ils vont souvent avoir une voix qui est très douce, très typique, genre des gens qui font des méditations ou du yoga. Ils vont souvent connaître plein, plein de personnes parce qu'ils vont être aimés de pas mal tout le monde. Puis, c'est des personnes que quand ils vont se déplacer ou quand on va les voir, sont très zen, très. Un mouvement doux et gracieux, si je peux dire. Okay? Fait que l'énergie du zen, c'est très présent pour le 9. Fait que peut-être que tu es comme, il y en a plusieurs que je me sens, tu sais, comme j'ai l'impression que je m'identifie à plusieurs numéros du Enneagram. C'est normal, by the way. C'est très, très normal. On a un petit peu de tout. Puis, on va souvent avoir ce qu'on appelle le tri-type. Que c'est comme tu vas avoir trois chiffres, dont ton principal, là, mais tu vas avoir trois chiffres qui vont être assez présents pour toi. C'est tout à fait normal. Mais comme je disais au début, ce qui va trancher, c'est vraiment ta core fear and core motivation. C'est ça qui va différencier, qui va trancher t'es où par rapport à ton Enneagram, puis en fait, où tu t'identifies. OK? Fait que si on parle du 1, OK? Le 1 qu'on a dit qui est très Attends, je retourne dans mes notes. Là. Très sérieux et straightforward, hardworking, qui travaille très fort, qui a des standards très élevés pour lui-même et les autres, qui est très rigide par rapport aux places et décisions, qui fait les bonnes choses. Lui, sa peur principale, OK? Ce qui va le la pire chose qui pourrait arriver, là, c'est d'avoir l'air imparfait, OK? D'avoir l'air d'une mauvaise personne. Ça, c'est la chose la pire pour un numéro 1, OK? Puis sa motivation, ça va justement d'être d'avoir l'air honorable, d'avoir l'air une bonne personne. Ils vont souvent regarder pour faire les choses du mieux possible, la meilleure façon pour faire les choses, OK? Fait que c'est des personnes qui ont des très hauts standards. Fait que eux, ce qui les motive, c'est souvent de le faire de la meilleure façon, puis eux, de faire les bonnes choses, d'avoir l'air d'une bonne personne, OK? Le numéro 2, fait que ça, c'est le type là, qui est très généreux, qui est très facile d'approche, c'est souvent lui qui va offrir de l'aide, qui va être très bon dans les équipes, qui va être nurturing, gentle, caring, tu sais, l'énergie de la maman qu'on disait. Ça, le numéro 2, sa peur là, qui va le driver, si je peux dire, c'est la peur d'être seule ou de ne pas être aimée. Okay? Cette peur-là va faire en sorte que ça va souvent... c'est la pire chose qui peut arriver pour lui, c'est d'être seule, de devenir seule ou de ne pas être aimée. Fait que ce qui va le motiver, ça va être d'être apprécié des gens et d'être aimé. Fait que c'est pour ça qui va être motivé à être généreux, à donner de l'amour, à être expressif de leur amour ou de leur appréciation pour les gens, pour être sûr qu'il est apprécié auprès des autres. OK? Comme je disais au départ, là, ça ne veut pas dire que tu es là puis que tu es une people pleaser, mettons que tu es un people pleaser, puis que tu donnes aveuglément, puis que ça ne veut pas dire que si tu es un 2, tu es comme ça. Ça, c'est l'essence du 2. C'est nuancé pour chaque personne, OK? Fait que ça se peut que tu retrouves un petit peu de « c'est vrai, genre ma peur, ma pire peur, ça serait d'être seule, de ne pas être aimée. C'est vrai que j'aime donner. C'est vrai que j'aime ça être appréciée par les gens. J'aime ça. La meilleure chose que mon chum peut me dire, par exemple, c'est qu'il m'aime et qu'il m'apprécie. » C'est d'être dans des petites choses comme ça qu'on va retrouver. Bon. Je pense que ma fille, elle va me couper ça. Je reviens. Bon, petite pause, juste de retour. Fait que c'est ça, dans le fond, il y a toujours une nuance. Puis ça, c'est l'énergie globale, si on peut dire, mais il y a toujours des nuances, il y a toujours des variations, puis il y a toujours des niveaux différents de consciousness, si je peux dire, à travers les personnes, OK? Pour le numéro 3, ça c'est la personne, en fait j'aurais dû dire les noms, le numéro 1 c'est le perfectionist, le 2 c'est le giver, le 3 achiever of course, fait que le numéro 3, puis by the way le numéro 3 c'est souvent eux qu'on va voir réussir en business plein de choses, puis qu'ils vont donner des trucs, puis qu'ils vont dire qu'il faut travailler fort pour réussir, puis que... C'est eux qui vont souvent montrer leur réussite, par exemple avec leur belle voiture, leur belle maison, les revenus. Puis, il n'y a rien de pas correct là-dedans. C'est typique d'un 3 parce que, tu vas comprendre, leur peur, les 3, c'est d'être une... failure en français, j'ai de la misère, d'être insignifiant ou de pas... l'inverse d'une réussite, là. Je ne sais pas c'est quoi « failure » en français, mais tu vas le savoir. Fait que leur motivation, ça fait de eux qui vont souvent chercher l'admiration des gens, d'avoir l'air de réussir. Ça ne veut pas dire « faker », mais quand ils sentent qu'ils réussissent ou quand ils sentent qu'ils « achieve big things », ils sentent qu'ils ont de l'admiration des gens. Ils sentent qu'ils réussissent. Donc, ils ne sont pas insignifiants. Ils ne sont pas une failure, OK? Le numéro 4, ça s'appelle l'individualiste. Puis, sa pire peur, c'est d'être... d'avoir comme des défauts ou d'être... sais pas pourquoi j'ai en tête, être brisée ou de. D'être comme pas assez bonne pour les gens, mettons. Je peux dire ça comme ça. Pas assez cool, pas. Il y a quelque chose de pas correct avec toi. OK? Ça, c'est leur pire peur. Fait que justement, leur motivation, c'est d'exprimer leur individualité, d'exprimer leur unicité pour montrer qu'elle se démarque puis la personne en vaut vraiment la peine. Okay? Fait que ces personnes-là vont souvent vouloir se démarquer, vont vouloir s'exprimer, vont vouloir se démarquer. Le numéro 5, c'est l'investigateur. Okay? Sa plus grande peur, c'est d'être surchargé, si je peux dire, de ses propres besoins, mais aussi des besoins des gens. Tu sais, d'être vraiment overwhelmed par tout ça, de dire, oh my God, là, je sais pas quoi faire avec tout ça. Puis, ce qui fait que sa motivation, c'est d'être compétent, d'être bon, de trouver la réponse. OK? Puis de le faire avec une certaine distance parce que s'il est indépendant et qu'il a une certaine distance, il ne peut pas être assez proche pour être overwhelmed avec toutes ces émotions-là. Puis il ne veut pas être engagé dans ces choses-là. Okay? Fait qu'il va, il va, il, sa motivation, c'est de garder une certaine distance des gens puis d'être très dans sa tête, d'être très cérébral, d'être très dans les connaissances. C'est pour ça qu'il va faire beaucoup de recherches. Le numéro 6, c'est le sceptique. Le 6, sa pire peur, c'est de ne pas être préparé. OK? De ne pas être préparé face à un danger, de ne pas être préparé face à une situation, de ne pas être préparé pour un projet. Tu sais, l'effet de surprise, là, ça, c'est comme la pire chose pour un numéro 6. Ce qui fait que le numéro 6 va être motivé à avoir de la sécurité, Ouais, c'est ça, de la sécurité, de la certainty, tu sais, comme d'être prévisible, que ça soit prévisible, safety, c'est vraiment quelque chose de super important pour le numéro 6. Le numéro 7, le enthousiaste, ça c'est le mien. La pire peur, c'est d'être pris quelque part qui n'est pas le fun, dans une situation, une conversation, whatever. C'est vraiment ici la FOMO, la fear of missing out. C'est, tu sais, de pas avoir été à quelque part que c'était vraiment cool ou d'avoir dit oui à quelque chose, à un événement, puis de manquer l'autre qui était plus fun. C'est vraiment ça la peur du set, de, tu sais, de trouver sa place. Puis sa motivation, ça va souvent d'aller chercher plein d'expériences pour éviter de trouver sa place, pour éviter les émotions comme la peine, les émotions un peu plus lourdes. Ou aussi d'être, de pas être inspiré. Fait que le 7 va être motivé à remplir tout ce vide-là pour pas ressentir ces choses-là. Le numéro 8, ça s'appelle le challenger. Puis lui, le numéro 8, sa pire peur, c'est d'être vulnérable et se retrouver sans pouvoir. Il a pas de pouvoir sur sa propre vie. Okay? Fait que pour ça, il va être très motivé à être indépendant, fort et en contrôle de ces choses, en contrôle de l'environnement, en contrôle de la situation. Le numéro 9, c'est le peacemaker qu'on appelle. Sa peur, c'est d'avoir trop de besoins, de demander trop à son entourage, puis que son entourage parte. Que ça les repousse, dans le fond. Fait que c'est comme un peu le rejet. Fait que pour ça, lui, ce qu'il va faire, sa motivation, c'est la paix et l'harmonie. Fait que c'est pour ça qu'ils vont vouloir résoudre les conflits, qu'ils vont avoir une attitude très zen pour justement pas repousser les gens. OK? Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Je ne sais pas à quel tu t'identifies. Il y a plein de tests qui sont gratuits sur Internet, mais sont pas toutes accurate. ce qui fait que dans le membership qui va repartir, je pense peut-être au mois de juillet, j'ai envie de le faire au mois de juillet, repartir ça pour un 6 mois, mon membership que j'ai depuis la dernière année, ce que je vais faire, c'est que moi, je paye pour avoir des questionnaires, ils sont bons ceux-là que je prends, pour que toi tu les fasses. C'est comme ça, ils sont plus accurate aussi. Fait que bref, c'est quelque chose qui t'intéresse, à partir du mois de juillet, là, je devrais ouvrir les portes du membership. Puis dans ce membership-là, tu as accès à tout ce que j'ai fait sur ma plateforme. Fait que tous les programmes en Human Design, en Astro, en Astro-Géo, le programme avancé en Human Design qui s'appelle The Experiment avec les motivations, avec l'alimentation, avec les environnements, avec les perspectives. Puis là, il y a Motherland qu'on est en cours de... On est en train de faire. Fait que ça aussi, ça va être là. Fait que si quelque chose t'intéresse, sache que ça va être là à partir du mois de juillet. Puis justement, on va parler de Enneagram. Il va sûrement avoir un programme là-dessus. Je suis en train de le faire. Puis tu vas avoir l'occasion de passer un test qui est plus « accurate », qui est plus précis. C'est ça le mot que je cherchais. Il est plus précis. Puis on va regarder ça ensemble. OK? Fait que, mais sinon, c'est ça, tu sais, tu peux réécouter l'épisode puis regarder à quel tu t'identifies le plus, puis regarder c'est quoi la pire affaire qui peut arriver, puis regarder c'est où tu t'identifies. Parce que comme je disais au départ, tu sais, moi, je m'identifie aussi au numéro 8 puis au numéro 3. Mais si je regarde toutes les peurs puis ce qui me motive, par exemple, le 3, sa peur, c'est la failure, l'échec. L'échec, j'ai trouvé le mot. C'est l'échec. L'échec, pour moi, il est moins pire que de trouver ça plate, OK? Beaucoup moins pire que... Ça fait mal, l'échec. T'sais, d'ailleurs, j'ai fait faillite il y a plusieurs années. Mais de trouver ça plate, ça, c'est pire. Ça sera pas long, Zozo, j'ai presque fini, Myla. Ah oui. Fait que c'est vraiment de... Récoute l'épisode, puis... Oups, sorry. Récoute l'épisode, puis regarde où tu t'identifies là-dedans. C'est quoi... Dans le worst case scenario, là, c'est quoi la pire chose pour toi dans toutes les peurs? Puis c'est comme ça que tu vas être capable d'un peu plus identifier quel chiffre est ton Enneagram. Puis ce qui est le fun en sachant son Enneagram, après ça, on est capable d'aller voir tes patterns. On est capable même d'aller voir comment ton Enneagram va interagir avec le Enneagram de ton Honey Boo. Alors moi, là, je suis là-dedans dans ce sens-ci, puis je trippe vraiment, vraiment, vraiment. On est capable d'aller voir dans ton travail comment ça peut t'aider, comment tu peux être plus dans ton leadership, comment, tu sais, comme toutes ces choses-là, c'est vraiment, vraiment cool le Enneagram. Bref, réécoute l'épisode, je pense que j'en ai dit beaucoup, fait que ça va t'aider de le réécouter ou de le mettre sur pause, prendre des notes. Puis la semaine prochaine, je vais faire l'épisode pour t'aider à utiliser l'astro, le Human Design et le Enneagram. Chacun avec leur propre rôle, je dirais. Puis ça, c'est des rôles que moi, j'ai identifiés. Là. C'est pas genre tout le monde fait ça et dit ça. Là. C'est moi. Comment moi, je les utilise. Puis comment je trouve que leur rôle il est vraiment distinct. Fait que je trouve que c'est plus facile quand ils identifient comme ça. C'est plus facile les utiliser que quand c'est comme ben là, j'utilise-tu mon Enneagram aujourd'hui ou j'utilise mon Human Design ou mon Astro. Là, je suis Bélier, puis je suis MG, puis je suis Enneagram 7. Qu'est-ce que je fais? Puis là, ça devient mêlant. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai comme vraiment trouvé à quoi ça me servait chacun pour après ça les utiliser. Fait que ça va être la semaine prochaine. Puis, il y avait-tu d'autres choses? I don't think so. Oh! Oh my God, yes! There's something new! Probablement qu'à l'automne, je vais faire des retraites d'une journée chez ma maman. Ma mère m'a proposé ça, d'accueillir des personnes au Montréal, à son chalet. Puis c'est vraiment cosy, puis ça serait des petits groupes là, en 12 et 15 probablement. 12 et 15 personnes, retraite d'une journée. Puis là, on pourrait faire des deep dives. Plus côté personnel, on aurait des discussions ensemble. Ça, c'est comme the best. J'aime tellement, tellement les trucs en personne. Là. Fait que ça s'en vient aussi. Fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Puis, j'ai pas commencé à préparer ça, mais je suis pas mal sûre que je vais le faire. J'aime vraiment ça. J'ai eu un hell yes qui m'a dit ça. Fait que je vais honorer mon HD, you know? Fait que voilà, si t'attends de venir me dire ton Enneagram, feel free to do it, j'aimerais vraiment ça. Là, je fais la même affaire que Human Design, à chaque fois que là, je parle à ma mère, à mon frère, à mes amis, je suis comme « Hmm, veux-tu faire un test d'Enneagram? » Là, j'ai fait mon chum, j'ai fait ma mère, j'ai fait mon père par la bande, là, je l'ai pas mal identifié moi-même, mais je sais pas si c'est ça bel et bien ça, mais même ma mère, j'ai lu le descriptif, elle était comme, oh, c'est sûr qu'il est un. Fait que voilà, peut-être que tu vas vouloir faire la même chose après, who knows? Fait que bref, viens me le donner, viens me dévoiler ton Enneagram, si ça te tente. Puis on se reparle la semaine prochaine pour voir comment utiliser le HD, Astro puis Enneagram tous ensemble. Fait que merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Bye!